de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer entre autres. Les infections à coronavirus en Inde sont tombées à leur plus bas niveau depuis juillet. L'Éthiopie prévient Tigré que l'offre de cession est terminée. La Grèce commémore la journée de la lutte étudiante de 1973 au milieu du confinement. On estime que le besoin mondial d'un vaccin COVID-19 est difficile à satisfaire. L'ambassadeur devrait contribuer à la coopération entre la ville de Bogor et les villes d'Azerbaïdjan. Le vice-ministre du Commerce est optimiste que la balance commerciale continuera de s'améliorer et la coopération de la radio internationale pour bâtir l'image de l'Indonésie. Bonjour Jolitar, voici la nouvelle incomplète. Les infections à coronavirus en Inde sont tombées à leur plus bas niveau depuis juillet. Les infections quotidiennes à coronavirus en Inde sont tombées à leur plus bas niveau depuis la mi-juillet, avec 29 163 nouveaux cas en 24 heures, portant le total à 8,87 millions de cas, selon le ministère de la Santé ce mardi. Les infections à COVID-19 en Inde, le pays qui enregistre le deuxième cas le plus élevé au monde après les États-Unis, sont en baisse depuis leur pic en septembre. Les Indiens célèbrent Diwali, un festival hindou des Lumières, ce week-end. Les experts préviennent que la saison des festivals a le potentiel de provoquer un pic de nouveaux cas. Selon le ministère, le nombre de décès dus à COVID-19 en Inde à ce jour est de 130 519, dont 449 nouveaux décès. L'Éthiopie prévient Tigré que l'offre de cession est terminée. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a averti mardi les forces rebelles du Tigré que le délai de 3 jours pour la reddition était terminé. Le gouvernement s'apprête également à lancer une attaque contre le Mekelle, la capitale du Tigré dans le nord de l'Éthiopie. Les forces armées sur Tigré ont tiré des roquettes sur l'Érythrée à la fin de la semaine dernière, provoquant une escalade du conflit. Les combats entre les troupes du Tigré et les troupes éthiopiennes ont fait des victimes des deux côtés et menacent la stabilité en Éthiopie et dans d'autres régions de la région de la Corne de l'Afrique. Au moins plus de 25 000 habitants ont fui vers le Soudan. Le Premier ministre Abiy a annoncé l'avertissement après que les forces gouvernementales ont lancé des frappes aériennes ciblées à l'extérieur de la ville de Mekelle. L'attaque a été suivie par le déploiement de troupes sur le terrain vers le centre-ville. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune réponse du chef du Tigré. La Grèce commémore la journée de la lutte étudiante de 1973 au milieu du confinement. La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou a déposé mardi une gerbe à l'école polytechnique d'Athènes en l'honneur des dizaines de personnes qui ont été tuées dans le mouvement de lutte étudiant de 1973, une commémoration qui s'est tenue au milieu du confinement de COVID-19. Dans ces circonstances normales, les années précédentes, à l'occasion de l'anniversaire de la lutte contre la junte militaire, le campus polytechnique d'Athènes serait bondé de personnes faisant laquelle pour rendre l'hommage aux victimes. La semaine dernière, le gouvernement conservateur a interdit les marches annuelles qui ont généralement lieu pour commémorer le moment historique dans la Grèce moderne. Pour empêcher la propagation de COVID-19, la décision a été combattue par l'opposition, le groupe gauche et le parti communiste qui l'ont qualifié d'autoritaire. On estime que le besoin mondial d'un vaccin COVID-19 est difficile à satisfaire. On estime que le besoin d'un vaccin COVID-19 dans le monde est difficile à satisfaire compte tenu du nombre de cas positifs avant l'hiver. Cette année n'a pas diminué, même si le gouvernement, les entreprises, les organisations non gouvernementales et d'autres partenaires travaillent ensemble. Il sera difficile de fournir de milliards de doses de vaccins. La réalisation de 2 milliards de doses de vaccins est difficile à réaliser. Selon la déclaration du directeur du Centre de recherche sur les vaccins de l'Université de Pékin, Cui Fuqian, cité mardi par les médias de diffusion officiels chinois. Même si l'objectif de production est atteint, le vaccin ne pourrait pas répondre aux besoins de tous. Il est important que le gouvernement, les entreprises, les ONG et d'autres partenaires parviennent à un consensus sur le fait que quiconque a le plus besoin d'une protection sanitaire doit être priorisé pour maximiser l'utilisation des vaccins. COVAX, qui abrite 186 pays afin qu'ils puissent accéder équitablement au vaccin COVID-19, a un programme de distribution de 2 milliards de doses de vaccins jusqu'à la fin de 2022. Cependant, selon Cui, cet objectif est un défi en soi pour la capacité de production. L'ambassadeur devrait contribuer à la coopération entre la ville de Bogor et les villes d'Azerbaïdjan. Le maire de Bogor, Bimaria, espère que l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Indonésie, Jalal Mirzayev, pourra contribuer à la coopération économique entre la ville de Bogor et les villes d'Azerbaïdjan. Le maire de Bogor, Bimaria Bogor, a déclaré mardi que Lorque, lui et plusieurs responsables de la ville de Bogor, ont effectué une visite de travail en Azerbaïdjan en mars 2020. Il avait soumis une offre de coopération avec les villes de l'Ankaran et de Bakou. Selon Bimaria, la coopération se situe dans le Public Service Mall, MPP, avec le gouvernement de la ville de Bakou. Qui concerne la formation à la gestion des MPP, la coopération commerciale comme l'exportation de thé avec la ville de l'Ankaran et la coopération agricole urbaine. Auparavant, Bimaria a reçu la visite de l'ambassadeur d'Azerbaïdjan pour l'Indonésie, Jalal Mirzayev, à l'hôtel de ville de Bogor lundi 16 novembre. La visite de Jalal Mirzayev à la maire de Bogor était en échange de la visite de Bimaria en Azerbaïdjan en mars 2020. Selon Jalal Mirzayev, Sa visite à Bogor devait faire suite aux discussions de la visite de Bimaria en Azerbaïdjan. Le vice-ministre du Commerce est optimiste que la balance commerciale continuera de s'améliorer. Le gouvernement est optimiste que la balance commerciale de l'Indonésie continuera de s'améliorer malgré la pandémie du COVID-19 avec un excès de 17,7 milliards de dollars américains de janvier à octobre 2020. C'est ce qu'a déclaré mardi le vice-ministre du Commerce, Jerry Sambuaga à Batam. Il a déclaré qu'au milieu de la pandémie de COVID-19, des protocoles de santé doivent être mis en œuvre. Cependant, les activités vivantes, en particulier les activités économiques, doivent encore être menées de manière équilibrée. Le vice-ministre du Commerce a invité les acteurs de l'industrie commerciale à maintenir l'esprit avec une orientation pour augmenter les exportations, afin que la balance commerciale reste excédentaire. Il a admis qu'il y avait un certain nombre de défis dans les exportations, comme l'ont déploré les hommes d'affaires. Pour cette raison, le vice-ministre du Commerce a déclaré qu'elle s'efforcerait d'observer et de réviser les réglementations jugées à entraver le développement de l'industrie. La coopération de la radio internationale pour bâtir l'image de l'Indonésie. Le président directeur de l'institution de radiodiffusion publique de Radio République Indonésia, RRI, Mohamad Rohanuddin a déclaré que la collaboration entre Radio République Indonésia et Voice of Vietnam, VOV, n'est pas seulement une collaboration entre la radio, mais une coopération entre les pays. C'est ce qu'a déclaré Rohanuddin après la signature d'un protocole d'accord entre RRI et Voice of Vietnam mardi 17 novembre 2020. Rohanuddin a déclaré que la principale raison du développement de Voice of Indonesia était d'accroître la coopération ou la diplomatie de l'État dans le domaine culturel avec d'autres pays. À cette occasion, il a également remercié l'ambassadeur d'Indonésie au Vietnam pour son aide au mémorandum d'accord et de coopération entre l'Indonésie et le Vietnam. Il a déclaré que cela montre l'enthousiasme de l'Indonésie à présenter la culture et l'image de l'Indonésie au niveau international. Rohanuddin espère que cette coopération se poursuivra pas seulement avec le Vietnam, mais aussi avec d'autres pays. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Cher ami, voici le commentaire et un petit titre, réaliser la paix durable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les combats ont cessé. Le Haut-Karabakh à la frontière de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie n'est plus une scène de coups de feu. Le nombre de morts, tant pour les militaires que pour les civils d'Azerbaïdjan et d'Arménie, n'a pas augmenté. L'accord de paix entre les deux pays et nations sert d'intermédiaire dans le conflit armé qui se produit. La belle région de Caucase n'est plus pleine de tirs de mortiers, de coups de feu et d'explosions de bombes. L'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui a eu lieu le 10 novembre 2020, est devenu un élan pour résoudre le problème. Non seulement le président azerbaïdjanais et le premier ministre arménien ont signé l'accord de paix, le président russe Vladimir Poutine a co-signé l'accord qui a eu lieu le lundi 11 novembre 2020 à 1h du matin dans la ville Bakou. La participation de la Russie à la signature de l'accord de paix montre certainement toute l'influence et l'intérêt du pays, au moins en Arménie. Ce qui est intéressant, c'est que la Turquie n'a pas participé à l'accord, même si l'on ne peut nier que la Turquie a des intérêts et de l'influence en Azerbaïdjan. L'existence de la Russie et de la Turquie contre l'Arménie et l'Azerbaïdjan fait partie de l'histoire depuis longtemps. L'Azerbaïdjan et l'Arménie faisaient tous deux partie de l'Union soviétique avant sa rupture en raison de la perestroïka. Dans le cadre du suivi de l'accord de paix, la Russie a ressenti le besoin d'envoyer des troupes de maintien de la paix. Le président Poutine l'a confirmé dans un discours après la signature de l'accord de paix. Au moins près de 2000 militaires participeront à ce que l'on appelle le maintien de la paix. Bien qu'il n'ait pas fait de déclaration directe, la Turquie participera également aux actions de maintien de la paix. Le président de l'Azerbaïdjan a déclaré l'implication de la Turquie dans une déclaration à la suite du discours de Poutine. Le monde espère que l'accord de paix deviendra une étape importante pour la création d'une paix durable entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc seulement cela a temporairement mis un terme à des semaines de combats intenses dans le Haut-Karabakh qui ont entraîné la mort de milliers de personnes. L'espoir d'une paix durable à la frontière de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie est très raisonnable, car auparavant, il y avait un accord de paix dans la région du Caucase. La guerre sanglante qui a entraîné la mort de milliers de personnes et le flot de réfugiés de l'extérieur du Haut-Karabakh qui a eu lieu dans les années 80 et au début des années 90 a pris fin grâce à l'accord de paix. Cependant, l'engagement de sauvegarder l'accord a été violé et a conduit aux conflits et guerres qui ont suivi. L'envoi actuel de soldats de la paix, tant par la Russie que par la Turquie, devrait certainement maintenir la paix. Les deux pays doivent également s'engager conjointement à toujours jouer un rôle de médiateur s'il existe un potentiel de confrontation. Les deux pays doivent pouvoir utiliser leur influence pour instaurer une paix durable entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Cher ami, c'était le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانج جنشوي بيتاي كوجو. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播，我的口罩保护你，你的口罩保护我。
evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers auditeurs, bonsoir. C'est maintenant pour nous de vous présenter l'histoire d'aujourd'hui, qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le 18 novembre 1918, l'indépendance de la Lettonie. L'indépendance de la Lettonie a été proclamée le 18 novembre 1918 au Théâtre national de Lettonie. Bien qu'aucune frontière n'ait été fixée, un groupe de nationalistes a déclaré l'État letton indépendant le 18 novembre 1918. Plusieurs mois après cette audacieuse décision, l'intervention militaire était toujours en cours car l'Empire russe ne voulait pas perdre cet important territoire. La Lettonie a été occupée et contrôlée par l'Union soviétique pendant la période 1940-1941 et 1945-1991 et par l'Allemagne nazie pendant la période 1941-1945. La Pacifique Révolution chantante de la période 1987-1991 et la manifestation Voix Baltique le 23 août 1989 ont élargi les chances d'indépendance des États-Baltes. Conformément à ces conditions, la Lettonie a déclaré une restauration de facto de son indépendance le 21 août 1991. L'autre information est sur le 21 partis politiques ont approuvé les nouvelles constitutions en Afrique du Sud le 18 novembre 1993. L'Afrique du Sud est connue dans le monde comme un pays qui a une histoire phénoménale dans le processus de démocratisation. Au milieu des flammes du patriotisme de Nelson Mandela, l'Afrique du Sud a réussi à mettre fin au régime d'apartheid qui s'était emparé de 1979 à 1991. Le 18 novembre 1993, 21 partis politiques d'Afrique du Sud ont approuvé une nouvelle constitution considérée comme démocratique pour l'Afrique du Sud, à savoir la constitution provisoire. On l'appelle une constitution provisoire parce qu'une constitution plus permanente ne sera pas formée à la hâte comme une constitution provisoire. La constitution provisoire adoptée en 1993 a transformé le Parlement en un système à deux chambres composé de l'Assemblée nationale et du Conseil national du Parlement ou du Sénat. La constitution provisoire comprend également une déclaration des droits, la transformation du tricaméral en système bicaméral et l'inclusion d'une déclaration des droits est considérée comme le fondement d'une nouvelle vie démocratique en Afrique du Sud. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le 18 novembre 2004, la Russie a signé le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est un accord juridique en vertu duquel les pays industrialisés réduiront collectivement leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% par rapport à 1990. L'objectif est de réduire les émissions de 6 gaz à effet de serre, à savoir le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux, l'hexafluorure de soufre, les HVC et le PVC. Les pays qui ratifient ce protocole s'engagent à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à travailler ensemble pour réduire les émissions. Le protocole de Kyoto, qui a été convenu à Kyoto au Japon en décembre 1997, est entré en vigueur le 16 février 2005, après que la Russie a officiellement ratifié le traité le 18 novembre 2004. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, 15 pays sont d'accord des partenaires économiques régionaux globaux. Le président Joko Widodo a déclaré que la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique régional global RCEP exige un engagement politique élevé. Les signataires ne sont que le début. Une route longue et raide peut se trouver devant vous. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, lors d'une conférence de presse virtuelle depuis le palais présidentiel de Bogor dimanche. Retno l'a exprimé après la signature de RCEP par 10 pays membres de l'ASEAN avec ses 5 pays partenaires, à savoir l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Selon Retno Marsudi, les pays signataires de RCEP ont exprimé leur appréciation pour le leadership de l'Indonésie au cours du processus de négociation. Selon elle, le processus de négociation a démontré le leadership de l'ASEAN par rapport aux pays partenaires. RCEP est une initiative de l'Indonésie quand elle est devenue le président de l'ASEAN et a été approuvée lors d'une réunion des dirigeants de l'ASEAN en novembre 2011. Les premières négociations ont commencé en mars 2013 et l'Indonésie a agi en tant que chef des négociations pour RCEP. Retno Marsudi a déclaré que RCEP devrait créer des conditions propices et compétitives pour l'économie de la région Indo-Pacifique. RCEP marque également un engagement envers les principes d'un commerce multilatéral ouvert, équitable et avantageux pour tous. Outre Retno Marsudi, le ministre du Commerce, Agus Suparmanto, a révélé que RCEP avait passé un long processus de négociation en plénière totalisant 31 cycles. Les 15 pays qui ont signé l'accord RCEP représentent au total 29,6% de la population mondiale, 30,2% du produit intérieur brut mondial, 27,4% du commerce mondial et 29,8% des investissements directs étrangers mondiaux. Les données d'exportation d'Indonésie vers 14 pays de RCEP au cours des 5 dernières années montrent une tendance positive de 7,35%, tandis qu'en 2019, le total des exportations non pétrolières et gazières vers la zone de RCEP représente 56,51% des exportations totales d'Indonésie vers le monde, d'une valeur de 84,4 milliards de dollars américains. Pendant ce temps, les importations RCEP représentaient 65,79% des importations totales d'Indonésie en provenance du monde, soit 102 milliards de dollars américains. Agus Suparmanto a cité une étude réalisée par des institutions privées en septembre 2020 qui concluait que dans les 5 ans suivant sa ratification, RCEP a le potentiel d'augmenter les exportations d'Indonésie vers les pays participants de 8 à 11% et les investissements d'Indonésie de 18 à 22%. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue au magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions de l'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons l'île Kuaba. Restez à l'écoute. Nusa Tenggara Est est un paradis pour les amoureux de la nature. La biodiversité et la paix avec un régal de paradis sur terre qui s'étend des airs de la terre au fond marin qui est le rêve de tout pour attirer l'attention des touristes étrangers en raison de son naturel et d'un million de biodiversité que l'une des provinces les plus exotiques de l'Est de l'Indonésie à offrir. Manggarai Occidental est également une zone qui propose une série de circuits exotiques, dont l'un est l'île de Kuaba, ou également connue sous le nom l'île de Kalong ou Chauve-souris, située non loin du parc national de Komodo, qui est l'une des sept merveilles du monde, et est un grand habitat pour les chauves-souris géantes qui habitent les rangées d'arbres exotiques de l'île. Ce site touristique est situé dans la résidence de Manggarai, précisément dans la zone forestière protégée de Mbeliling à Labuan Bajo. Pour arriver sur l'île avec des milliers de chauves-souris frugivores, une vue exotique vous sera présentée. Si vous partez en avion, vous pouvez descendre à l'aéroport le plus proche où il est recommandé de descendre à Denpasar. De Bali, vous pouvez continuer le voyage en prenant un ferry longue distance pendant environ 4 à 5 heures jusqu'à l'est de Nusa Tenggara. Une fois sur place, prenez un bus public jusqu'au port de Labuan Bajo, puis continuez en bateau à moteur ou en canoë jusqu'à l'île de Kuaba pendant environ 8 km ou environ 1 heure par voie d'eau. C'est un peluang, mais quand vous y arrivez, vous serez offert par une très belle vue. Cette petite île à la forêt dense est entourée d'eau de mer bleue contenant des millions d'animaux et de plantes marines abrite des milliers de grands chauves-souris qui se percent dans les arbres pendant la journée et heures du soir à la nuit pour chasser. Même s'il est habité par des milliers de chauves-souris, de nombreux visiteurs disent qu'il est un peu difficile de rencontrer des chauves-souris car la vie nocturne de ces animaux nocturnes est difficile à naviguer. Cependant, vous pouvez essayer de voir vers 18h. Il n'y a pas d'installation d'hébergement sur cette île. Il est donc fortement recommandé de profiter de certains spots de plongée dans la région de l'île en attendant l'apparition de la créature nocturne. Les organisateurs de tourisme près du port ont fourni des masques de location, des palmes, des bouées, des bouteilles de gaz aux combinaisons de plongée et de natation. Passer du temps dans des zones de tourisme naturel telles que l'île de Kuaba est le choix le plus approprié pour être en mesure de voir de première main la grandeur de Dieu qui a donné des privilèges à l'Indonésie avec ses diverses cultures, son charme naturel et sa biodiversité. Chers auditeurs, c'était notre programme, le magazine culturel pour aujourd'hui avec le titre L'île Kuaba. Merci de votre attention. À demain.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est « Membeli tiket nonton ». « Membeli tiket nonton ». En français, « Acheter un billet du cinéma ». Bonne écoute. « Cher Jemmy, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé « Membeli tiket nonton ».« Membeli tiket nonton ». En français, « Acheter un billet de cinéma ». La situation est, au centre commercial, Kevin achète un billet au cinéma et prévoit de regarder un film avec Rama.
Ada yang bisa saya bantu?
Saya mau pesan tiket film Gundala untuk 2 orang.
Untuk jadwal filmnya, mau pesan tiket yang pukul 2 siang?
Ya, saya pesan tiket film yang tayang pukul 2 siang saja.
Harga tiketnya jadi 100.000 rupiah ya?
Ya, ini uangnya.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, membeli tiket nonton. Membeli tiket nonton. En français, acheter un billet de cinéma. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase 2 fois. Et puis, vous pouvez me répéter. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? En français, peux-je vous aider? Tiket film. Tiket film. Billet de cinéma. Jadwal film. Jadwal film. Horaire de film. Pukul. Pukul. Heure. Tayang. Tayang. Diffusé. Chers auditeurs, si vous souhaitez acheter des billets de cinéma, vous pouvez immédiatement indiquer les films à regarder et le nombre de billets à acheter. Comme dans la phrase, saya mau pesan tiket film Gundala untuk 2 orang. Saya mau pesan tiket film Gundala untuk 2 orang. Je souhaite commander un billet de film Gundala pour 2 personnes. Habituellement, le responsable des billets vérifiera les sièges des spectateurs vides et fournira des recommandations pour les heures de séance de cinéma, ordonnées avec la phrase Untuk jadwal filmnya, mau pesan tiket yang pukul berapa? Untuk jadwal filmnya, mau pesan tiket yang pukul berapa? En français, pour l'horaire des films, souhaitez-vous commander un billet à quelle heure? Pour répondre aux questions des agents concernant les horaires de films recommandés, vous pouvez utiliser des phrases. Ya, saya pesan tiket film yang tayang pukul. Ya, saya pesan tiket film yang tayang pukul. Oui, j'ai commandé un billet de cinéma diffusé à, comme dans l'exemple suivant. Responsable billetterie. Untuk jadwal filmnya, mau pesan tiket yang pukul 2 siang. Untuk jadwal filmnya, mau pesan tiket yang pukul 2 siang. En français, pour l'horaire du cinéma, souhaitez-vous commander un billet à 2 heures de l'après-midi? Kevin. Ya, saya pesan tiket yang tayang pukul 2 saja. Ya, saya pesan tiket yang tayang pukul 2 saja. En français, oui, j'ai commandé un billet de cinéma qui sera diffusé à 2 heures. Chers amis, voici un exemple d'utilisation d'une expression pour acheter un billet de film au cinéma et les réponses qu'elle donne. Kevin, saya mau pesan tiket film Gundala untuk 2 orang. Saya mau pesan tiket film Gundala untuk 2 orang. En français, je veux commander des billets de film Gundala pour 2 personnes. Responsable des billets. Ya, baik. Kira-kira mau pesan tiket yang tayang pukul berapa? Ya, baik. Kira-kira mau pesan tiket yang tayang pukul berapa? Ah oui, très bien. Voulez-vous commander un billet diffusé à quelle heure? Kevin, saya mau pesan tiket film yang tayang pukul 2 saja. Saya mau pesan tiket film yang tayang pukul 2 saja. En français, je veux commander un billet de cinéma qui sera diffusé à 2 heures. Bon, chers amis, en indonésien, le mot juste pour exprimer l'heure est pukul. Pukul, en français, heure. Le mot pukul, pukul, en français, heure, sera suivi de chiffres et de descriptions pour le matin, l'après-midi, le soir ou la nuit. Par exemple, film itu akan tayang pukul 5 sore. Film itu akan tayang pukul 5 sore. En français, le film sera diffusé à 17h de l'après-midi. Chers amis, avant de terminer apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation.
Ada yang bisa saya bantu?
Saya mau pesan tiket film Gundala untuk 2 orang.
Untuk jadwal filmnya, mau pesan tiket yang pukul 2 siang?
Ya, saya pesan tiket film yang tayang pukul 2 siang saja.
Harga tiketnya jadi Rp100.000 ya?
Ya, ini uangnya.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'Apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers amis, c'était la 4e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie. Vous êtes avec moi, Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Et cette fois, vous allez écouter une chanson pop traditionnelle de Kalimantan occidental, intitulée Ae Kapuas, chantée par Rino Prasetya et Hendry Lamiri. Chers auditeurs, la chanson Ae Kapuas a été créée par Paul Putra Frédéric et raconte l'histoire de la rivière Kapuas et de la ville de Pontianak. La rivière Kapuas est la plus longue rivière du Kalimantan occidental et aussi la plus longue d'Indonésie. En outre, la chanson Ae Kapuas raconte également l'histoire de la ville de Pontianak qui est diffusée par la rivière Kapuas. On dit que Pontianak était autrefois une forêt, mais maintenant c'est devenu une ville. À la fin des paroles, il est dit que quiconque a déjà bu l'eau de la rivière Kapuas ne peut jamais l'oublier. Bonjour Jolitar, voici Rino Prasetya et Hendry Lamiri vont chanter une chanson pop traditionnelle de Kalimantan occidental intitulée Ae Kapuas. Bonne écoute.
Tak disangka dulu hutan menjadi kota. ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.